Manuscrit 159, Unité de l'Esprit, bâtir soigneusement sur le roc, le Christ, notre aide au moment de la tentation. Article 1. Le Seigneur désire faire de l'homme le dépositaire de l'influence divine, et la seule chose qui empêche l'accomplissement des desseins de Dieu, c'est quand les hommes ferment leur cœur à la lumière de la vie. L'apostasie a contraint l'Esprit Saint à se retirer de l'homme. Mais grâce au plan de la rédemption, cette bénédiction du ciel doit être restaurée en ceux qui la désirent sincèrement. Le Seigneur a promis de donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent, et toutes ces bonnes choses, est-il dit, sont accompagnées du don de l'Esprit Saint. Matthieu 7, verset 11, voire Luc 11, verset 13. Plus nous découvrirons notre véritable besoin, notre vraie pauvreté, plus nous désirerons le don du Saint-Esprit. Nos âmes seront transformées, non pas en canaux d'ambition et de présomption, mais en canaux de supplication fervente pour que soit accordée l'illumination du ciel. C'est parce que nous ne voyons ni notre besoin, ni notre pauvreté, que nous ne nous épanchons pas en supplication fervente, les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, pour qu'il nous octroie sa bénédiction. C'est la seule chose qui soit nécessaire au sanatorium de Sainte Héléna. Si seulement les ouvriers là-bas connaissaient leurs besoins, leurs cris monteraient avec une incessante importunité afin que l'Esprit de Dieu repose sur eux. Ils ne verraient pas autre chose que le danger de marcher à la lueur de leur propre feu. Concevoir et planifier sans l'aide du Seigneur, c'est être pris au piège de l'ennemi. Que toute âme recherche le Seigneur. Jésus a dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7, verset 7. C'est par rapport à notre appréciation de la nécessité et de la valeur des choses spirituelles que nous cherchons leur réalisation. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5, dit Jésus. Et pourtant, nombreux sont ceux qui croient que l'homme peut accomplir beaucoup par sa propre force et sa sagesse limitée. Satan est prêt à offrir son conseil afin de gagner des âmes dans le jeu de la vie. Quand les hommes ne ressentent pas la nécessité de consulter leurs frères, quelque chose ne va pas. Ils placent leur confiance dans leur propre sagesse. Il est essentiel que les frères se consultent les uns les autres. Tel est le message que je me suis efforcé d'apporter ces 45 dernières années. Encore et encore, l'instruction a été donnée à ceux qui sont engagés dans un travail important dans la cause de Dieu de ne pas marcher selon leurs propres idées, mais de se consulter les uns les autres. Ils peuvent considérer leur plan comme étant sans faille, mais d'autres esprits pourraient être éclairés sur certains points qu'ils ne peuvent pas voir, ou au contraire, prendre garde à des suggestions et des conseils venant de personnes qui ne voient pas la vérité. Le Seigneur peut avoir des plans d'un ordre différent, sans suivre les plans de l'homme fini. Le Seigneur n'a pas doté un seul homme de toutes les qualités essentielles pour accomplir le travail dans nos institutions. Un homme peut être fort dans un domaine et faible sur d'autres points, et Satan sait comment tirer parti de ce point faible. Tandis qu'un autre peut être fort dans un autre domaine, chacun compensant les lacunes de son frère. Que personne ne pense pouvoir se suffire à lui-même, ou comme possédant suffisamment de largeur d'esprit pour porter les lourdes responsabilités de la gestion d'institutions telles que la maison d'édition, l'école ou les établissements de soins. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe 11, verset 14. Il est essentiel que les hommes occupant des postes à responsabilité dans toutes les branches de l'œuvre de Dieu profitent des ordonnances religieuses et des moyens de la grâce pour obtenir tous les conseils que le ciel peut leur apporter. Des efforts particuliers devraient être faits par les professionnels médicaux pour se placer dans le faisceau de la lumière, car ils sont continuellement exposés à diverses tentations. Les médecins sont privés de nombreuses occasions de participer à des réunions importantes où ils pourraient acquérir une meilleure compréhension du fonctionnement de la cause de Dieu. Mais ils pourraient faire beaucoup mieux que ce qu'ils font actuellement s'ils voulaient concevoir et planifier dans un but déterminé. Ils n'entendent pas les statistiques de l'œuvre. Ils manquent les appels directs qui sont faits au cœur, afin de pouvoir reconnaître la voix de Dieu dans les supplications, les avertissements, les témoignages de son esprit, de manière à ce qu'ils soient assurés que le capitaine de leur salut dirige effectivement son peuple. ils perdent de vue l'importance et la force des vérités spirituelles et ne parviennent pas à avoir une foi exaltée. Ceux qui sont dans cette position ont besoin de sages conseillers avec lesquels alterner l'assistance aux réunions religieuses pour le bienfait des églises. Imprégnés de l'Esprit de Dieu, ils pourront recevoir la sainte inspiration et répéter les messages d'avertissement et garder vivantes à l'esprit les bontés de Dieu en menant une vie de pureté, de foi et de joie de l'esprit. Le Seigneur est à l'œuvre de diverses manières pour souder son peuple. Grâce à des agents célestes et humains, il travaille pour que ceux qui se disent ses disciples deviennent tous participants de la nature divine. 2 Pierre 1, verset 4. Afin que son Église soit élevée au plus haut niveau d'excellence chrétienne. Dieu a tracé très distinctement la ligne de démarcation entre l'Église et le monde, et il veut qu'elle soit discernée et respectée. Les croyants de tous âges doivent être unis, et le Saint-Esprit est l'essence vivante qui cimente, anime et imprègne tout le corps des disciples du Christ. Les responsabilités qui incombent aux membres de l'Église du Christ sont des tâches fixées par le Seigneur, et bien que chacun des ouvriers ne soit qu'un atome, une fraction de la magnifique trame, habitée par le Saint-Esprit, combien sacrées et saintes ces responsabilités apparaissent-elles ? Les Juifs avaient une garde désignée dont le devoir était de veiller nuit et jour sur le temple, et bien que cette garde était composée d'un grand nombre d'hommes, chacun sentait qu'il était dans l'obligation de se tenir dans sa position, car on lui avait confié une responsabilité solennelle. Imaginez que le corps nombreux de gardes avait été renvoyé, et que l'ensemble du fardeau de la responsabilité avait été placé sur un seul homme, et cela à un moment où un danger particulier était proche en raison des efforts d'un ennemi vigilant. Ce serait de la présomption. Le gardien solitaire ne serait-il pas susceptible d'être vaincu parce que surchargé ? Dieu merci, des intérêts importants n'ont pas à reposer sur l'esprit ou le jugement d'un seul homme. Chaque âme doit être à l'affût pour détecter chaque son, noter chaque mouvement de l'ennemi qui mettrait en danger la charge que Dieu lui a confiée. Tel est l'esprit qui doit caractériser chaque ouvrier à la maison de santé, car il a été confié à chacun d'entre vous une responsabilité sacrée de vous aider les uns les autres, de vous fortifier les uns les autres à garder le fort. Chacun doit contribuer à édifier l'autre dans la très sainte foi, et on ne peut en aucun cas accepter que qui que ce soit en détruise un autre. Le Saint-Esprit doit demeurer en chaque ouvrier, de peur que celui qui garde veille en vain. Psaume 127, verset 1. Que chacun fasse son travail pour Dieu et non pour l'homme. Que votre conduite soit conforme à la mission sacrée qui vous a été confiée. Cela vous est possible, car la fontaine de la vie vous a été ouverte, et les principes d'un ordre nouveau et céleste doivent contrôler votre esprit et vos actions. Que personne ne reçoive l'impression que nous pouvons nous associer en toute sécurité avec les mondains. Des confidences ne doivent pas être encouragées avec ceux qui sont ennemis du Christ. Aucun compromis ne peut être fait avec l'ennemi. Êtes-vous des sentinelles pour Dieu ? Alors soyez prudents de peur que vous ne trahissiez le peuple de Dieu et ne le livriez entre les mains de l'ennemi. Satan cherche à insinuer quelque projet qui aboutira à séparer les ouvriers de Dieu, mais j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait « Que chacun se tienne dans sa position » et remplisse la part qui lui a été assignée avec une indéfectible fidélité, et il verra et réalisera l'accomplissement des gracieux desseins du Seigneur. Si vous vous agitez, comme Abraham et Sarah, et montez vos propres plans pour provoquer l'accomplissement des promesses de Dieu et obtenir un état de choses que vous jugez souhaitable d'après vos propres voies et idées, vous constaterez que cela se traduira par la douleur, la misère et le péché. Jésus vient à vous en tant qu'esprit de vérité. Étudiez la pensée de l'esprit, consultez votre Seigneur, suivez sa voix. Si vous cédez aux diktats de l'esprit et de la chair, votre esprit perdra son caractère approprié et son équilibre, et vous perdrez votre discernement et serez incapable d'apprécier la puissance morale. Vous chercherez ensuite à réaliser les maximes des mondains. Leurs voix se font entendre de toutes parts. Voici la voie du succès. Si vous suivez leurs suggestions, votre esprit sera trompé, rendu charnel, et vous estimerez l'illumination de l'Esprit Saint comme étant de moindre importance que l'invention humaine. Dieu vous appelle à fermer la porte aux inventions humaines et à ouvrir la porte à l'illumination divine. Faites attention de ne pas résister à l'Esprit de Dieu dans son œuvre sur le temple de l'âme. Soyez déterminés à plaire à Dieu, à magnifier son nom, à profiter de la douce influence de sa grâce. Chaque élément de votre nature doit être consacré à Dieu. Ne sacrifiez pas le moindre attribut sur l'autel de Satan. Il n'y a pas assez d'ouvriers, qu'ils possèdent de grands ou de petits talents, qui s'abandonnent à Dieu afin d'être sanctifiés et équipés pour son service. Donnez tout ce que vous avez et êtes, et tout cela ne sera rien sans les mérites du sang qui sanctifie le don. Si ceux qui détiennent des postes à responsabilité multipliaient leurs talents au centuple, leur service n'aurait aucune valeur devant Dieu si le Christ n'était pas mêlé à toutes leurs offrandes. Que toute la gloire de ce qui est accompli serve la gloire de Dieu, elle lui appartient. Le monde ne peut pas discerner Jésus, alors que je ne sois pas désireux de m'unir au monde, de peur que moi aussi je ne devienne aveugle comme le mondain, et que je ne puisse voir la beauté de la vérité. En contemplant, en étudiant les plans et les projets ambitieux du monde, je deviens de plus en plus favorable à leurs méthodes, et je suis plus disposé à écouter les suggestions de l'ennemi et à accepter d'être soudoyé par Satan, alors que je devrais instantanément le rejeter, comme l'a fait Jésus lorsqu'il fut tenté. Il y en a qui parlent d'une manière regrettable concernant les restrictions que la religion de la Bible impose à ceux qui voudraient suivre ses enseignements. Ils semblent penser que la restriction est un grand inconvénient, mais nous avons des raisons de remercier Dieu de tout notre cœur qu'il ait dressé une barrière céleste entre nous et le terrain de l'ennemi. Il y a certaines tendances du cœur naturel que beaucoup pensent devoir suivre afin d'être épanouis. Mais ce que l'homme considère comme essentiel, Dieu voit qu'il ne constituerait pas la bénédiction pour l'humanité que les hommes imaginent, car le développement de ses traits de caractère les rendrait inaptes à vivre au ciel. Le Seigneur soumet les hommes aux épreuves afin que les scories soient séparées de l'or, mais il ne force personne. Il ne lie pas avec des chaînes, des cordons ou des barrières, car ces choses augmentent le mécontentement plutôt que de le diminuer. Le remède au mal se trouve dans le Christ comme sauveur demeurant en nous. Mais pour que le Christ soit dans l'âme, celle-ci doit d'abord être vidée de soi, de sorte que le vide ainsi créé soit rempli par le Saint-Esprit. Le Seigneur purifie le cœur, tout comme nous aérons une chambre. Nous ne fermons pas les portes et les fenêtres pour répandre ensuite une substance de purification, mais nous ouvrons toutes grandes les portes et les fenêtres, et laissons l'atmosphère purifiante du ciel l'immonder. Le Seigneur dit « Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. » Jean 3, verset 21. Les fenêtres de l'impulsion, des sentiments, doivent être ouvertes vers le ciel, et la poussière de l'égoïsme et de la mondanité doit être expulsée. La grâce de Dieu doit se répandre à travers les chambres de l'esprit. L'imagination doit avoir des thèmes célestes à contempler, et tous les éléments de la nature doivent être purifiés et vivifiés par l'Esprit de Dieu. Beaucoup semblent penser que la religion a tendance à rendre son possesseur étroit et baumé. Mais la véritable religion n'a pas une influence restrictive. C'est le manque de religion qui limite les facultés et rétrécit l'esprit. Quand un homme a l'esprit baumé, c'est une preuve qu'il a besoin de la grâce de Dieu, de l'onction céleste. Car le chrétien est celui à travers lequel le Seigneur, le Dieu des armées, peut travailler pour qu'il suive la voie du Seigneur sur la terre et rende manifeste sa volonté devant les hommes. Article 2. Bâtir soigneusement sur le roc.
Je me demande ce que je dois faire ou dire qui pourrait changer votre état d'esprit. Je m'intéresse grandement à votre devenir et je demande au Seigneur de guider ma plume. Le Seigneur vous a lui-même appelé. Et les anges de Dieu ont été vos aides. J'ai écrit que le Seigneur vous a placé dans la position même où vous êtes, non parce que vous êtes infaillible, mais parce qu'il travaillerait dans votre esprit par son Saint-Esprit. Vous ne devriez en aucun cas vous empêtrer et vous associer à une œuvre qui mettra en péril votre influence auprès des adventistes du septième jour, car le Seigneur vous a lui-même placé dans cette position afin que vous vous teniez devant la profession médicale, non pour être façonné, mais pour façonner les esprits humains. Chaque jour, vous devez être sous la supervision de Dieu. Il est votre Créateur, votre Rédempteur. Il a un travail à vous confier, non pas à l'écart des Adventistes du septième jour, mais dans l'unité et l'harmonie avec eux, afin d'être une grande bénédiction pour vos frères en leur transmettant la connaissance que Dieu vous a donnée. Nous sommes le grand édifice de Dieu. Chaque coup, chaque pierre placée dans le bâtiment font uniquement partie de l'ensemble. Chaque ouvrier doit lui-même devenir tout ce que Dieu voudrait qu'il soit dans l'édification de sa propre vie avec des actes purs, nobles et droits pour qu'à la fin, il soit une structure symétrique, un temple saint, honoré par Dieu et par l'homme. Dieu doit être dans ce travail. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. Il a travaillé à travers vous et il travaillera encore pour faire honneur à son nom en vous confiant ses grandes responsabilités. Nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. Et Dieu voudrait nous utiliser, vous et moi et chaque individu qui s'engage à son service. Chacun doit se tenir sur sa tour de garde et écouter attentivement ce que l'Esprit a à lui dire. Car chaque parole et chaque acte laissent une empreinte non seulement sur nos caractères, mais sur les caractères des autres personnes engagées dans l'œuvre. Le Seigneur veut que vous alliez de l'avant, comme Daniel, tous les aspects de votre caractère étant soumis à son contrôle, afin que jour après jour, vous puissiez progresser dans une structure qui ira de l'avant, non pas comme un ensemble parfait en soi, mais en rapport avec le travail des autres ouvriers choisis, comme un temple magnifique pour le Seigneur, un témoignage vivant de la valeur, de la stabilité et de la noblesse de l'homme qui n'a à cœur que la gloire de Dieu. Vos facultés sont séparées et distinctes, mais le succès de chacune dépend de l'autre. Ainsi, chaque jour, Dieu travaille sur son édifice, action après action, pour parfaire la structure, qui se transforme ainsi en un temple saint pour le Seigneur. Une pierre mal posée affecte l'ensemble de l'édifice. Cette image représente le caractère humain, qui doit être travaillé point par point. Il ne doit pas y avoir le moindre défaut, car c'est l'édifice du Seigneur. Chaque pierre doit être parfaitement posée, afin de pouvoir supporter la pression exercée sur elle. Dieu vous avertit, ainsi que chaque ouvrier, de prendre garde à la façon dont vous construisez, afin que votre édifice puisse supporter l'épreuve de l'ouragan et de la tempête, parce qu'il aura été accroché au rocher éternel. Prenez garde à la façon dont vous construisez. Chaque heure peut être passée à placer la pierre sur le fondement sûr, prête pour le jour de l'épreuve et de la révélation, quand nous serons vus tels que nous sommes. Dieu m'a présenté cet avertissement comme essentiel dans votre cas. Il vous aime d'un amour incommensurable. Il aime vos frères dans la foi, et il travaille avec eux dans le même objectif qu'avec vous. Son Église sur la terre doit prendre des proportions divines face au monde, comme un temple composé de pierres vivantes, chaque pierre émettant de la lumière. Cet édifice doit être la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, verset 14. Il est composé de pierres disposées les unes près des autres, chaque pierre ajustée à la suivante, rendant ainsi le bâtiment solide. Toutes les pierres n'ont pas la même forme ni la même taille. Certaines sont grandes, d'autres petites, mais chacune a sa propre crevasse à combler. Et la valeur de chaque pierre est déterminée par la lumière qu'elle diffuse sur le monde. Tel est le plan de Dieu, et il voudrait que tous ceux qui professent croire à sa parole remplissent leur place respective dans la grande œuvre pour notre temps. Chers et bien-aimés frères, nous vivons au milieu des périls des derniers jours. Chaque faculté mentale et physique doit être cultivée, car toutes les capacités sont essentielles pour faire de l'Église un édifice qui représentera la sagesse et le caractère du grand concepteur. Nous devons cultiver les talents que Dieu nous a confiés. Ce sont ses dons, et ils doivent être utilisés en relations appropriées les uns avec les autres, de manière à en faire un tout parfait. Dieu donne les talents, les capacités de l'esprit. L'homme construit son caractère. L'esprit est le jardin du Seigneur, et l'homme doit le cultiver avec ardeur afin de former un caractère à la ressemblance divine. Le Seigneur a travaillé avec vous, mon frère très respecté, vous permettant d'accomplir votre part en tant que son ouvrier. Mais il y a d'autres ouvriers qui doivent accomplir leur part en tant qu'agents de Dieu, ses membres, qui aident à composer le corps tout entier. Gardez à l'esprit que tous doivent être unis comme les parties d'une grande machine. L'Église du Seigneur est composée de ses agents vivants, qui tirent leur pouvoir d'agir du « chef et consommateur de la foi » Hébreux 12, verset 2. La grande œuvre qui repose sur chaque ouvrier de Dieu doit être exécutée dans une harmonie symétrique. Le peuple de Dieu ne doit pas être dans la confusion, le désordre, la discorde, la dissension et la laideur. Le Seigneur est grandement déshonoré lorsqu'il n'y a pas d'unité au sein de son peuple. J'ai été fortement impressionné par la lutte, la discorde et l'émulation qui existent dans la société. Ceux qui croient à la vérité pour ce temps doivent savoir que la vérité est un tout. Les spasmes du sentiment ne sont pas l'inspiration. L'unité que Dieu exige doit être cultivée de jour en jour. Les lèvres doivent être sanctifiées, la langue, la voix doivent être formées pour offrir le bon type de service si nous voulons réaliser la prière du Christ. Voir Jean 17, versets 11, 22. La désunion qui prévaut parmi ceux qui prétendent croire au dernier message de miséricorde à donner à notre monde est un grand obstacle à l'avancement de nos travaux. Tous doivent être unis et faire un, comme le Christ est un avec le Père, et leurs facultés doivent être éclairées, inspirées et sanctifiées, formant un tout complet. Dieu est déshonoré par les divergences qui existent au sein de son peuple. Ceux qui aiment Dieu et gardent ses commandements ne doivent pas se diviser mais s'unir étroitement. Voir Philippiens 2, versets 1 à 4. Le Seigneur ne vous abandonne pas, mon frère. Gardez à l'esprit que notre passage dans ce monde n'est qu'un pèlerinage et que le monde futur est le foyer où nous allons. Ayez foi en Dieu. Article 3. Le Christ, notre aide au moment de la tentation. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1, versets 2 à 4. Les tentations qui assaillent les enfants de Dieu doivent être considérées comme les manifestations de la colère de Satan contre le Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Galates 1, verset 4. Voir aussi Tite 2, verset 14. Satan est rempli de colère contre Jésus, mais il ne peut blesser le Sauveur que par la conquête de ceux pour qui le Christ est mort. Il sait que, lorsqu'à travers ses artifices, les âmes sont ruinées, alors le Sauveur est blessé. L'univers céleste regarde avec l'intérêt le plus profond le conflit entre le Christ, en la personne de ses saints, et le grand séducteur. Ceux qui reconnaissent la tentation et y résistent mènent les batailles du Seigneur. Ils reçoivent cet éloge. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Jacques 1, verset 12. Supporter la tentation signifie cultiver la patience. L'âme harcelée et tentée ne peut pas se confier en sa propre force et détermination. Sentant sa totale impuissance, elle se réfugie dans la forteresse en disant « Mon Sauveur, j'appuie mon âme impuissante sur toi. » Plus la tentation est pressante, plus cette âme s'accroche au Tout-Puissant. Par la foi, elle dépose la tentation aux pieds du Christ et la laisse là. La foi dans la force du Sauveur la rend plus que vainqueur. C'est la puissance miraculeuse de Jésus qui revêt le chrétien de force et lui permet de vaincre comme le Christ a vaincu. La tentation n'est pas le péché à moins d'être chéri. En regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, l'âme sera remplie de paix et d'une confiance sereine. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ésaïe 59, verset 19. Il y a quelques heures, j'ai écouté les plaintes d'une âme en détresse. Satan est venu à elle d'une manière inattendue. Elle pensait avoir blasphémé le Sauveur parce que le tentateur mettait continuellement dans son esprit la pensée que le Christ n'était qu'un homme, rien de plus qu'un homme bon. Elle pensait que les chuchotements de Satan étaient les sentiments de son propre cœur, et elle en était horrifiée. Elle pensait qu'elle niait le Christ, et son âme était torturée dans son agonie. Je lui ai assuré que les suggestions de l'ennemi n'étaient pas ses propres pensées, et que le Christ la comprenait et l'acceptait, qu'elle devait traiter ses suggestions comme venant entièrement de Satan, et que son courage devait augmenter avec la force de la tentation. Elle devait dire « Je suis un enfant de Dieu, je me consacre, corps et âme à Jésus. Je hais ses vaines pensées. » Je lui ai dit de ne pas admettre un instant que ses pensées venaient d'elle, et de ne pas permettre à Satan de blesser le Christ en la plongeant dans l'incrédulité et le découragement. À ceux qui sont tentés, je dirais, ne reconnaissez pas un instant les tentations de Satan comme étant en harmonie avec votre propre esprit. Détournez-vous d'elles comme vous le feriez de l'adversaire lui-même. L'œuvre de Satan est de décourager l'âme. L'œuvre du Christ est d'inspirer au cœur la foi et l'espérance. Satan cherche à déstabiliser notre confiance. Il nous dit que nos espoirs reposent sur de fausses prémices, plutôt que sur la parole sûre et immuable de celui qui ne peut pas mentir. Les chrétiens les plus anciens et les plus expérimentés ont été assaillis par les tentations de Satan, mais grâce à la confiance qu'ils plaçaient en Jésus, ils ont vaincu. Il peut en être de même pour toute âme qui regarde au Christ par la foi. Un homme ne peut pas mettre ses pieds dans la voie de la sainteté sans que les hommes méchants et les mauvais anges ne se liguent contre lui. Les mauvais anges vont conspirer avec les méchants pour détruire les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont réprimandés pour leurs mauvaises pensées détesteront le réprobateur du péché et essayeront de l'arracher au service du Christ. Le conflit peut être long et douloureux, mais nous avons la parole de l'Éternel que Satan ne pourra pas nous conquérir, à moins que nous nous soumettions à lui. Le Christ a été crucifié comme un menteur, pourtant il était la lumière et la vie du monde. Il a subi la contradiction des pécheurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Peut-on mesurer l'amour de Dieu ? Paul déclare qu'il surpasse toute connaissance. Éphésiens 3, verset 19. Par conséquent, nous qui avons été faits participants du don céleste, serons-nous insouciants et indifférents, négligeant le grand salut accompli pour nous ? Allons-nous nous permettre d'être séparés du Christ et de perdre ainsi la récompense éternelle, le grand don de la vie éternelle ? N'accepterons-nous pas l'inimitié que le Christ a placée entre l'homme et le serpent ? Ne mangerons-nous pas la chair et ne boirons-nous pas le sang du Fils de Dieu, ce qui signifie de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ? Matthieu 4, verset 4. Ou deviendrons-nous mondains, mangeant la nourriture du serpent, qui est l'égoïsme, l'hypocrisie, le fait de soupçonner le mal, l'envie et la convoitise. Nous avons le droit de dire « Par la force de Jésus-Christ, je serai vainqueur. Je ne serai pas vaincu par les artifices de Satan. »